Les archives d'Afrique, à la Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Nous devons bâtir une Guinée forte et unie. Il faut savoir qu'il n'est pas juste de diviser les enfants d'un même peuple. La Guinée est à tous les Guinéens. Ensemble, nous réussirons. Divisés, nous sommes voués à l'échec. Je ne soutiendrai aucune ethnie contre une autre. Je situe la différence entre deux hommes au niveau de la conscience et de l'ardeur au travail, sans autre considération.
Arrivé à la tête de la Guinée au lendemain de la mort de Sékou Touré, qui a dirigé d'une main de fer son pays pendant 26 ans, Lansana Conté, à la tête de la junte militaire baptisée CMRN, qui a opéré le putsch constitutionnel, a décidé de donner un autre visage à son pays, d'en finir avec les divisions ethniques et les orientations idéologiques qui ont miné ce territoire au riche potentiel naturel. Seulement, depuis 15 mois qu'il est au pouvoir, les résultats tardent à venir. Il a déjà mis fin à une tentative de putsch, mais cette fois-ci, la colère vient de la rue. Les espoirs placés en lui au début de sa prise de pouvoir s'érodent. On lui reproche sa lenteur et son indécision. Il faut agir vite s'il veut regagner la confiance de son peuple.
Après ce coup qui a échoué, je ne vous dirai pas que je serai plus rapide. Je serai toujours méfiant pour éviter trop d'erreurs dans ce que nous faisons. Moi, je vous dis que je suis lent. J'ai été lent de prendre certaines décisions. Par exemple, dans le domaine économique, parce que je sais que des hommes que j'ai d'abord ne sont pas compétents et tous ne sont pas honnêtes. Un travail, il faut avoir dans les postes des hommes non seulement compétents, mais conquis à la cause de la politique, à une certaine politique, d'une certaine politique. Nous avons constaté que nous avons assez d'hommes, nous avons des hommes, mais la preuve vient d'être donnée. Beaucoup travaillent contre nous. Nous avons donc eu raison d'être là.
Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Décembre 1985. Dans son discours programme, l'heure est au changement. Lansana Conté opte pour le libéralisme économique après 26 ans d'économie centralisée. Il lance de nombreuses réformes, notamment le rétablissement de l'initiative privée, la privatisation de nombreuses entreprises publiques, la dévaluation de la monnaie et le rétablissement du franc guinéen, ainsi que la réduction des dépenses du gouvernement et l'encouragement des investissements étrangers. En janvier 1986, le franc guinéen abandonné en 72 remplace le Sili. Il préfère désormais les Américains aux Soviétiques. Lansana Conté a décidé de prendre des décisions impopulaires pour sauver son économie.
Aujourd'hui, nous sommes en train de dégarnir la fonction publique. Vous, les femmes qui êtes ici, vous qui êtes fonctionnaires, il y en a qui ne le sont pas. Mais toutes les femmes qui sont fonctionnaires savent que la fonction publique guinéenne est remplie d'hommes qui ne travaillent pas. Tout le monde sait qu'il y a trop de fonctionnaires. Mais personne ne veut quitter parce que chacun veut rester là, derrière le bureau, à la fin du mois, il touche 1000 francs. Avec les 1000 francs, il ne peut même pas payer le condiment d'une journée. Mais il préfère rester là. Alors, nous vous demandons d'encourager vos maris. Celui qui n'est pas directeur, ne cherchez pas à ce qu'il soit directeur, cherchez seulement à ce qu'il soit efficace pour son pays. On dit qu'il y a trop de fonctionnaires, nous voulons diminuer pour que ceux qui restent soient bien payés et qu'ils puissent entretenir leur famille sans voler. Et maintenant, nous voulons qualifier le fonctionnaire pour l'intérêt du pays. Pour qualifier le fonctionnaire, les surplus, là, il faut liquider. On ne pourra plus accepter de garder à la fonction publique des gens qui ne travaillent pas. Puisque nous sommes tous d'accord que nous sommes trop nombreux à la fonction publique, le surplus, il faut l'enlever. Si nous voulons préparer l'avenir de nos enfants, il faudrait que nous changions de méthode.
Ces décisions pragmatiques et nécessaires demandées par les institutions internationales séduisent les bailleurs de fonds. Ces choix économiques et politiques contribuent aussi à réchauffer les relations avec les grandes nations occidentales, notamment avec Paris. Le président François Mitterrand, sensible à tous ces changements et aux promesses de démocratie, effectue une visite à Conakry en novembre 1986.
Votre visite, monsieur le président, s'effectue à un moment décisif de l'évolution historique de notre peuple. Il s'agit en effet d'instaurer un état de droit garantissant les libertés des Guinéens. Sur le plan économique, cette volonté de renouveau se traduit par une politique d'assainissement des secteurs économiques et financiers. Comme toute entreprise, ces mutations qui appellent nécessairement des contraintes se heurtent à certaines difficultés. L'héritage est lourd. Nos concitoyens, longtemps demeurés dans le carcan d'un système restrictif, s'adaptent difficilement aux exigences de ce redressement. Seule la patience et l'idéal de progrès peuvent permettre à notre peuple de réaliser le bonheur auquel il aspire. C'est pourquoi, tout en se fondant sur son inépuisable génie créateur, le peuple de Guinée, pour réaliser ce programme, compte également sur d'autres peuples amis. Par des marques d'amitié et des actes de solidarité, la France a soutenu notre programme de développement national et nous a apporté son concours financier et son assistance technique chaque fois que besoin en a été exprimé. L'occasion est propice pour traduire la haute appréciation de mon gouvernement et de la nation guinéenne face à ces résultats positifs qui constitue un modèle de coopération nord-sud.
La solidarité qu'elle entend témoigner au peuple guinéen et qu'elle a témoigné dès votre accession au pouvoir s'exprime par la coopération. Là où vous le souhaitez, vous-même, la France offre son concours. Si la France a choisi d'agir ainsi, c'est qu'elle connaît et qu'elle respecte les impératifs de ses partenaires africains. Elle respecte leurs choix. Elle respecte leur politique économique. Coopérant avec des États souverains, elle se garde de s'ingérer dans leurs affaires. Elle n'a pas de leçons à donner. Elle n'a d'ailleurs pas de recettes pour le développement des autres. Elle s'efforce seulement de trouver avec eux, quand ils font appel à elle, les moyens de l'efficacité. La coopération entre la Guinée et la France, je ne m'en étonne pas, c'est de ci, de là, l'objet d'appréciations nuancées. Et après tout, et c'est bien l'essentiel, la Guinée, comme vous aimez à le rappeler, monsieur le président, ce sont les Guinéens qui la tiennent entre leurs mains. On me dit que certains trouvent que les Français sont trop présents, d'autres estiment que la France ne fait pas assez, que la discussion éternelle que l'on retrouve dans l'appréciation que les Français portent à l'égard de leur propre politique. C'est l'avis même d'un pays démocratique. Chacun a son avis, mais en fait, la France souhaite être à vos côtés, elle souhaite faire davantage. Elle doit tenir compte de ses propres obligations à l'égard de son propre peuple, mais elle montre dans beaucoup de domaines qu'elle reste parmi les pays les plus industrialisés, celui qui témoigne, qui affirme et qui plaide pour le développement, pour le tiers-monde et particulièrement pour l'Afrique.
Mais si l'Ansana Conti est plutôt apprécié par les grandes nations occidentales, ou en tout cas s'il bénéficie encore d'une période de grâce sur le plan international, il reste confronté à une grosse difficulté en interne. La question tribale qui a toujours secoué la Guinée.
Il y a un dernier mouvement qui vient de se créer dans les pays qui sont à côté de nous, qu'on appelle Union Mandingue. Vous savez, ce que nous craignons, c'est que les Guinéens qui sont là, qui ont souffert, n'arrivent à écouter et prendre en considération ce que ces détracteurs-là disent. Nous avons peur pour vous, nous n'avons pas peur pour nous. Parce que ce que nous sommes en train de construire ensemble, si des éléments de ce genre arrivent à vous détourner de votre propre objectif, c'est ce qui nous effraie. Sinon, c'est le mouvement Mandingue qui s'est installé à l'extérieur, qui commence à avoir des ramifications à l'intérieur. Si ceux-ci sont capables de faire quelque chose, mais qui se présentent, nous n'avons dit que tous les Guinéens sont libres d'exprimer devant le gouvernement ce qu'ils pensent pour le bonheur du pays. Mais on ne peut pas s'asseoir à l'extérieur et inventer des choses qui ne sont plus à la page en Guinée. Il faudrait donc que vous compreniez que le CMRN ne défend pas ses propres intérêts en essayant de créer l'unité nationale. Le mouvement de Mandingue est en train de diviser la Guinée. Il faut savoir une chose, c'est que tous nos gros commerçants qui se trouvent à l'extérieur, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de financer les mauvais Guinéens qui sont avec eux, pensant pouvoir venir en Guinée prendre le pouvoir. Nous vous mettons en garde contre ces gens qui sont des fils du pays. Ils viendront, même si on le connaît, ils viendront ici. Quelqu'un qui est de Cancan, qu'on connaît, qu'il est dans cette affaire, il viendra, il verra son père, il verra sa mère, il repartira. Nous ne ferons rien. Ils sont assis à l'extérieur en train d'écrire des papiers et envoyer aux jeunes en Guinée, aux femmes, aux travailleurs, pour que ceux-ci se révoltent contre le gouvernement. Nous ne pouvons pas empêcher que le mouvement démocratique national qui écrit des livres à l'extérieur, nous ne pouvons pas empêcher qu'ils les envoient en Guinée. Ce qu'ils veulent, nos amis qui se trouvent à l'extérieur, s'ils n'arrivent pas du tout à prendre le pouvoir en Guinée, qu'ils arrivent au moins à diviser la Guinée, pour qu'ils viennent, ceux qui sont malinqués, viennent commander la Haute-Guinée, parce qu'ils croient que c'est des moutons qui sont en Haute-Guinée, qu'il faut venir prendre le bâton et les dresser. Ceux qui sont là-bas, qui sont de la Moyenne Guinée, ils viennent en Moyenne Guinée, prennent le pouvoir. Ceux qui sont en Guinée ne sont pas connus. Ceux qui sont de la forêt, la même chose, et la Basse Guinée, la même chose. Nous cherchons l'unité du pays, et ils cherchent à diviser le pays. Et ils ont même écrit que si le CMRN ne part pas, et ils vont faire la balkanisation en Guinée.
Le décor politique est planté. Ce n'est pas tout. Sur le plan national, l'impatience gagne l'ensemble des Guinéens. Les promesses tardent à venir. Les populations ne voient et ne sentent pas de réels changements. Les discours ne sont pas en adéquation avec la réalité puisque la pauvreté progresse un peu partout. Pendant ce temps, à nouveau, la corruption est revenue et bénéficie aux agents de l'État. Le pays est soumis aux diktats des institutions de Bretton Woods, notamment du FMI et de la Banque mondiale, qui imposent leur fameux et fumeux plan d'ajustement structurel avec son corollaire de compression de personnel, de réduction de train de vie de l'État et des privatisations. On voit également déferler de nombreuses multinationales attirées par les immenses richesses naturelles du pays. Mais pour les nationaux, la pauvreté ne fait qu'augmenter. Et ce sont les femmes qui vont bien faire comprendre, mieux faire ressentir le mécontentement qui gagne la Guinée. Les 6 et 7 janvier 1988, elles descendent dans la rue pour manifester contre la vie chère. Le signal est suffisamment fort pour que l'Ansana Conté, conscient du danger que fait planer cette inertie de son administration, réagisse rapidement.
Le fonctionnement de notre appareil administratif n'est pas encore suffisamment cohérent et de ce fait, le programme de réforme administrative enregistre un retard sur les échéances initialement définies. La restructuration de notre fonction publique et le dégraissage de ses effectifs sont certes un travail délicat et socialement sensible, mais son accomplissement, qui est de la plus haute importance pour le développement rapide de notre pays, ne peut souffrir très longtemps encore des inerties et des obstacles subjectifs. Chaque membre du gouvernement devra désormais évaluer la dimension du succès de son action en fonction du niveau de restructuration effective atteint dans le secteur qui lui est confié. La justice, pour sa part, suscite de plus en plus de défiance chez les citoyens. Elle prend quelques distances avec les plus humbles au profit des nantis. C'est là un grave dérapage qu'il convient de rectifier très rapidement. En matière de finances publiques, nos recettes fiscales et douanières, en dépit de nombreux efforts, sont loin de correspondre au niveau de l'activité économique. Le laxisme, la faiblesse de la réglementation, les irrégularités de tout genre, le manque d'intégrité des agents sont là aussi des réalités inquiétantes. L'accroissement de la criminalité et la petite délinquance devient également un objet de grave préoccupation des citoyens. Il faut une action vigoureuse et de grande envergure pour débusquer et réprimer les criminels, les délinquants professionnels et les milieux de la drogue.
Encore une fois, le président Conté fait des promesses. La même année 1988, au moment du 30e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, il promet de doter la Guinée d'une loi fondamentale.
La constitution a supprimé. Nous avons attendu 4 ans pour vous proposer la mise en place d'une loi fondamentale. Cette loi fondamentale déterminera donc les nouvelles méthodes que chaque citoyen doit adopter. Donc, beaucoup de choses vont changer. Nous pensons que d'ici le 31 décembre, avant le 31 décembre, la commission devra commencer déjà le travail. Nous allons d'abord choisir les hommes. En principe, ça doit être fait par les Guinéens qui sont à l'intérieur, avec la contribution de tout Guinéen à l'extérieur qui veut aider à la confection de cette loi.
L'heure est à l'économie et à la proximité. Ainsi, il exige que chaque ministre, chaque membre du gouvernement, effectue obligatoirement un séjour dans son village natal lors de ses congés annuels. C'est la politique du retour aux sources. Il s'attaque aux commerçants et aux opérateurs économiques qui font flamber les prix. Invite les Guinéens à s'intéresser à l'agriculture. Il n'est pas normal que l'on continue d'importer autant de riz en Guinée.
Il faut savoir une chose, que nous sommes tous des pères de famille, donc tous responsables de quelque chose, à des degrés différents. Moi, je peux trouver ce que je mange. Mais je ne suis pas seul dans le pays. Je suis avec des gens qui n'ont pas les mêmes possibilités que moi. C'est pour cela, dès le départ, nous avons dit, bon, l'État perd ses droits pourvu que les populations puissent payer le riz au prix abordable, pour que les opérateurs économiques aussi aient leurs bénéfices. C'est ici que vous opérez. Et c'est vous que nous voulons aider. Nous n'allons pas nous débarrasser de ce que nous faisons, donner à des gens et les torpiller. Nous ne pouvons pas. Nous devons faire face à vos difficultés. Au sein du gouvernement, il y a des gens qui vous défendent. Il faut que vous le sachiez. Mais devant certains problèmes, chacun de nous est obligé de se sacrifier. Des opérateurs économiques comme vous, il n'y a aucun d'entre vous qui a un hectare de cultivé. Il n'y en a pas. Tout le monde se braque sur le commerce, on abandonne l'agriculture. C'est vous qui devez être des industriels. C'est vous qui devez être des agriculteurs. Il faut prouver à l'opinion internationale, au monde entier, que la Guinée peut produire du riz et non pas vous battre pour commander du riz. Ce n'est pas mon objectif, ça, moi. Mon objectif est que vous soyez capable, en tant qu'opérateur économique, de nourrir la Guinée sans sortir de la Guinée.
Mais toutes ces mesures ne parviennent toujours pas à satisfaire les attentes d'une population désabusée. Le charme du président Lansana Conté semble ne plus vraiment avoir d'effet. C'est dans ces circonstances, dans ce climat, qu'il décide, en 1989, de mettre en place un nouveau régime politique. Il faut frapper un grand coup pour en finir avec la lourdeur du système qui, selon lui, représente le vrai handicap au changement. Quel est donc ce grand coup qu'il prépare pour changer la donne? Va-t-il y parvenir? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Chaque membre du gouvernement devra désormais évaluer la dimension du succès de son action en fonction du niveau de restructuration effective atteint dans le secteur qui lui est confié. La justice, pour sa part, suscite de plus en plus de défiance chez les citoyens. Elle prend quelques distances avec les plus humbles au profit des nantis. C'est là un grave dérapage qu'il convient de rectifier très rapidement.
Après 4 années de pouvoir, le bilan est négatif. Le président Lansana Conté, devant la lenteur de la restructuration qu'il avait promis, devant la critique que suscitent toutes ses faiblesses, l'état de son système est amer. Le constat dressé par lui-même est sans concession. Son arrivée avait suscité tellement d'espoir et pourtant, il peine encore à transformer l'essai. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée.
Mais pour le moment, ce que nous vous demandons, c'est de nous aider à trouver le chemin de l'économie. Quand l'économie est forte, la politique s'en sale. Sinon, s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de politique.
Ce message, cet appel au secours lancé à la presse, traduit son désarroi, mais également sa volonté d'éduquer les masses, de mettre les Guinéens au travail. Il invite même ceux de la diaspora à revenir au pays pour apporter leur force de travail au changement.
Il n'est pas nécessaire pour vous qui cherchez à vivre, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, ou même à l'intérieur de la Guinée, qu'il n'est pas nécessaire pour vous d'avoir un pays, dans votre pays, un gouvernement que vous ne reconnaissez pas, que vous ne dirigez pas, dans lequel vous n'avez pas votre parole. Nous vous avons dit que nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent aider le pays. Nous sommes ouverts et tous les Guinéens installés à l'intérieur comme à l'extérieur, chacun doit amener sa contribution dans le développement de notre pays. Pour connaître ce qu'il faut faire, il faut des fois vivre ce qui se fait. Nous demandons donc aux Guinéens qui sont installés ici et ailleurs, puisque la route est ouverte, personne ne sera arrêté, même s'il croit qu'il a fait du mal en Guinée avant de sortir. Il est libre de rentrer.
Depuis son arrivée, il a expérimenté de nombreuses formules. Il a ouvert la Guinée à l'économie de marché. Il a dégraissé la pléthorique fonction publique. Il a promu la politique du retour aux sources. Il essaie de convertir ses compatriotes à l'agriculture pour diminuer les importations de riz. Il leur a promis une loi fondamentale. Mais toutes ces mesures ne parviennent toujours pas à satisfaire les attentes d'une population désabusée.
Je vous engage, vous les médias, les journalistes, d'avoir confiance maintenant en vous-même. Il faut savoir que vous êtes des citoyens libres. Parlez pour votre pays. Ne parlez pas pour un individu. Mais dites ce qui est. Effectivement, il ne faut pas avoir peur. On n'arrêtera personne parce qu'il a dit ce qu'il pense. Si tu es une erreur, on l'appelle, on le dit. Tu as dit ça, tu n'avais pas le raison de dire. Parce que voilà la réalité. On ne t'arrêtera pas. N'ayez plus peur de ça. On n'ira pas sur quelqu'un la nuit. Soyez objectif, dites la vérité. Je veux qu'on me dise ce qui ne va pas. Pour cela, c'est les médias. Et vous êtes incapables de le faire. Vous cherchez à être d'accord avec moi. Vous n'avez pas raison. Un journaliste ne peut pas être d'accord avec celui qui dirige. C'est pas vrai. Je n'ai rien dit à personne. Quand les gens viennent chez moi ici, ils disent on va te faire une image de marque. Image de marque, c'est ma conduite. Personne ne peut faire mon image de marque.
Le charme du président Lansana Conté semble ne plus opérer. C'est dans ces circonstances, dans ce climat, qu'il décide en 1989 de mettre en place un nouveau régime politique. Il faut frapper un grand coup pour en finir avec la lourdeur du système qui, selon lui, représente le vrai handicap au changement.
Le CMRN ne manquera pas à son devoir de parachever l'œuvre entreprise le 3 avril 1984. C'est pourquoi il a récemment dégagé les options fondamentales concernant le régime politique à mettre en place. Ces options portent sur les questions suivantes. Premièrement, un régime présidentiel dans lequel le président de la République est en même temps chef du gouvernement. Il est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Deuxièmement, un parlement comportant une seule chambre dont le mode d'élection sera défini dans la Constitution. Troisièmement, la séparation nette entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, ce dernier jouissant d'une indépendance garantie par la loi. Quatrièmement, un multipartisme limité dans un premier temps à 2 partis politiques. Cinquièmement, l'institution d'un Conseil national de redressement CNR en tant qu'instance politique suprême qui présidera aux destinées du pays pendant une période de transition de 5 ans que nous jugeons nécessaire.
Le CMRN, le Comité militaire de redressement national, est donc mort. Vive le CNR, le Conseil national de redressement, nouvelle instance suprême qui présidera aux destinées de la Guinée pendant une période de transition de 5 ans. Et dans sa volonté affichée d'instaurer la démocratie, le général Conté instaure le multipartisme, mais limité à 2 mouvements politiques. Nous sommes 2 ans avant le sommet de la Bolle, où le président François Mitterrand mettra la pression sur les dirigeants francophones africains afin qu'ils instaurent la démocratie et le multipartisme dans leur pays. Quelques semaines avant la chute du mur de Berlin qui tombera le 9 novembre 1989 sous le poids de la Glasnost, qui ne va pas tarder à souffler sur le reste du vieux continent et en Afrique. Lansana Conté est donc un peu en avance. Mais cette décision, ce geste, signifie-t-il qu'il y croit vraiment? Que l'armée ne veut pas confisquer le pouvoir, comme il l'affirme? Surtout que dans la foulée, dans ce climat de détente, il décrète quelque temps après une amnistie générale pour tous les Guinéens de l'intérieur comme de l'extérieur. Tous ceux qui ont été condamnés pour délits politiques. Cette mesure spectaculaire s'accompagne de la restitution de leurs biens. Pour ceux qui ont été condamnés après le coup d'État manqué de 1985 du Premier ministre Diarra Traoré. Seulement, la majorité, l'écrasante majorité d'entre eux, ont été exécutés sommairement depuis longtemps déjà. Cette amnistie annoncée ne concerne que quelques survivants dont personne ne connaît exactement le nombre. Un mois plus tôt, en janvier 1988, la veuve du président Sékou Touré, qui avait été condamnée à 8 ans de travaux forcés avec confiscation des biens, a été libérée, ainsi que 67 détenus politiques. Cette décision signifie-t-elle que Lansana Conté s'engage résolument cette fois-ci dans la voie du dialogue et de l'unité nationale? Va-t-il enfin pouvoir mettre en œuvre son programme pour faire reculer la pauvreté dans ce pays que l'on dit béni des dieux, qui possède 1/3 des réserves mondiales de bauxite, de l'or, du diamant, du fer, du manganèse, du zinc, du cobalt, du nickel et de l'uranium? Mais pourtant, l'eau ne coule déjà plus dans les robinets de la plupart des quartiers populaires dans ce pays réputé être le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest avec ses 1300 cours d'eau. Les lycéens doivent marcher dans les rues des quartiers résidentiels le soir pour réviser leurs leçons sous les lampadaires allumés. Quelle solution peut apporter Lansana Conté pour faire renaître l'espoir? Surtout que l'opposition se mobilise avec dans ses rangs un certain Alpha Condé. Lansana Conté, qui arrive au 16e sommet franco-africain de la Bolle en France en ce mois de juin 1990, est auréolé de son projet de constitution et de sa promesse d'instauration du multipartisme. C'est donc moins sous pression qu'il écoute la nouvelle politique africaine de l'Élysée qu'annonce le président François Mitterrand devant tous les chefs de l'ancien précaré médusé.
Il y aura une aide normale de la France à l'égard des pays d'Afrique. Il est évident que cette aide traditionnelle, déjà ancienne, sera plus tiède en face de régimes qui se comporteraient de façon autoritaire sans accepter l'évolution vers la démocratie et qu'elle sera enthousiaste vers ceux qui franchiront ce pas avec courage et autant qu'il leur sera possible.
Une prime à la démocratie. Ce discours de François Mitterrand va amplifier le vent venu d'Europe de l'Est qui souffle sur le continent. Lansana Conté, lui, va très rapidement être confronté à cette bourrasque. Elle vient de l'université de Conakry.
Nous avons dit que nous avons été au regret de constater unanimement qu'aucun effort n'a été fourni pour doter l'université d'une bibliothèque même indigne de ce nom. À cela s'ajoute un manque très remarquable de professeurs dans presque toutes les facultés de l'université de Conakry.
Alors parmi les autres revendications, il semble qu'il y a également les problèmes de bourse. Mais le recteur dit que ce sont les étudiants qui l'année dernière ont décidé l'instauration de bourse, alors que jusqu'ici les étudiants pouvaient manger gratuitement, étaient logés parfois gratuitement.
Et... Oui, c'est bien sûr à la demande des étudiants de Conakry que les bourses ont été instaurées. Mais les conditions d'octroi des bourses n'ont pas été déterminées au préalable. Et ces conditions ont fait que nous avons mentionné quelque part ici que nous avons constaté que la majorité des étudiants a été mise au désespoir par les conditions d'octroi des pécules, car cela ne permet même pas la restauration des demi-boursiers, étant entendu que les prix sont excessifs. et nos conditions de vie dans le campus. Il faut voir, je vous allez jeter un coup d'œil dans nos toilettes, voir dans les foyers de 4, dans les cabines de 4 mètres sur 4, on met 12 personnes. Les cabines de 3 mètres sur 2, on met 8 à 6 personnes. Donc c'est quand même inaccessible.
Depuis le début du mois de novembre, les étudiants manifestent contre l'insuffisance de leurs bourses d'études, la baisse de la qualité de l'enseignement à la suite de l'embauche de quelques professeurs pas suffisamment qualifiés, et la qualité de la bibliothèque et des laboratoires. Au fil des jours qui s'égrènent, les manifestations se font de plus en plus politiques, et les étudiants commencent à exiger des réformes démocratiques, le multipartisme et le départ du président Lansana Conté. C'est dans ce contexte que la police intervient violemment sur le campus, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés.
La situation sociale en Guinée, avec une nouvelle manifestation qui a dégénéré jeudi dernier. Les lycéens étaient descendus dans la rue, les forces de l'ordre ont chargé, bilan 2 morts. Depuis 40 jours, l'université de Conakry est paralysée. Les étudiants se sont affrontés à plusieurs reprises avec les policiers. Au cours de ces échauffourées, un étudiant a été tué. L'université est fermée et la tentative de médiation menée par l'église a échoué. Bref, c'est le blocage. On assiste même à un raidissement des lycéens et des étudiants. La situation sociale s'aggrave en Guinée.
L'université est fermée. Malgré l'interdiction des autorités de police, le vendredi 23 novembre, une manifestation pour demander la libération des étudiants arrêtés est organisée hors du campus, en face de la mosquée où le président a l'habitude d'effectuer ses prières. Mais Lansana Conté ne va pas cette fois-ci venir y prier. Les manifestants sont aussitôt dispersés par la police. Fin novembre, le gouvernement guinéen lance un ultimatum aux étudiants menaçant de fermer définitivement l'université s'ils ne mettent pas fin à leur mouvement de protestation. Quelques jours après, c'est au tour des lycéens de rejoindre leurs aînés étudiants dans la manifestation qui tourne à l'émeute.
Les événements de mercredi et jeudi marquent incontestablement un durcissement de la contestation scolaire. Celle-ci a fait tache d'huile. Après les étudiants en grève depuis 40 jours, les lycéens se sont joints au mouvement. Et ce sont eux, semble-t-il, qui ont mené l'attaque contre une brigade de gendarmerie dans le quartier Askia. Les troubles ont ainsi dépassé le périmètre de l'université pour se répandre dans d'autres quartiers périphériques. Tout semble indiquer en tout cas que le dialogue est bel et bien rompu entre le pouvoir et les étudiants, des étudiants que le gouvernement accuse d'être à la tête du mouvement. Vendredi dernier, prenait fin l'ultimatum des autorités pour une reprise des cours à l'université qui a été fermée. Mardi, les membres du comité de coordination de la grève rencontraient l'archevêque de Conakry pour une médiation. La tentative a été un échec et dès le lendemain, éclataient les incidents les plus violents depuis l'attaque du complexe scolaire de Donka il y a 2 semaines. Un étudiant, peut-être 2, avait alors été tué. 2 morts à nouveau cette semaine. Le pouvoir joue la carte de la répression et la menace d'une année blanche plane désormais sur l'université guinéenne. Thierry Perret, Dakar RFI.
La population est appelée à se prononcer aujourd'hui pour ou contre la nouvelle constitution élaborée par le régime du président Lansana Conté. Il s'agit en fait de la première étape en direction de la restauration d'un régime civil en Guinée. Un processus mis en route il y a tout juste un an, Thierry Perret.
Il y a un an, Lansana Conté annonçait son projet de transition progressive vers le multipartisme. La première difficulté du président guinéen a consisté à faire admettre par son entourage le retour à une vie civile. Il a fallu expliquer aussi aux paysans à quoi servait une constitution. Et pourtant, le projet de loi fondamentale n'est pourtant pas des plus audacieux. Il prévoit un régime bipartite après une transition de 5 ans, une formule jugée tout à fait insuffisante par l'opposition qui réclame le départ immédiat des militaires. Tous ces derniers jours, des tracts appelant au boycott du référendum ont circulé à Conakry. La ville est d'ailleurs sous le choc des violentes manifestations de lycéens et étudiants, manifestations qui avaient fait au moins 1 mort ces dernières semaines. Selon plusieurs témoignages, la police continuerait à traquer ceux que le président appelle les fauteurs de troubles. Voilà qui fait craindre le réveil des vieux démons de la répression en Guinée, au moment même où l'on parle de changement de société. Thierry Perret, Dakar, RFI.
L'adoption par référendum à 98% des suffrages du projet de constitution instaurant le multipartisme à 2 parties ne va pas suffire à calmer les tensions en Guinée. Au contraire, comme à chaque scrutin, elle contribue plutôt à exacerber les antagonismes tribaux dans un pays sous grande tension et divisé. Tension qui va aboutir à de violents affrontements ethniques lors des élections communales du début de l'année 1991. Des heurts entre malinkés et forestiers, qui représentent l'ensemble des ethnies de la Guinée forestière, se déroulent autour de Zérékoré, bilan une centaine de morts. Au mois de mai de la même année 1991, dans ce climat de crise, de division et de pauvreté, mais surtout de déception par rapport aux espoirs fondés sur le régime en place, le syndicat des travailleurs, CNTG, appelle à une grève générale illimitée. Une manifestation baptisée des déflatés, c'est-à-dire des 40 000 fonctionnaires licenciés depuis 1984 dans la mise en œuvre des plans d'ajustement structurel du FMI. Cette manifestation va très rapidement tourner en affrontement avec le saccage de la maison du secrétaire général de la présidence, puis de la voiture du ministre de l'Éducation nationale. À l'université aussi, c'est la violence. C'est dans cette ambiance tendue que l'ancien des Sciences Po Paris, l'ex-militant et ancien président de la FEANF, le mouvement des étudiants africains de France, fondateur du Parti des travailleurs de Guinée, qui va devenir un peu plus tard, toujours en exil, le mouvement national démocratique de MND, Alpha Condé, l'ancien condamné à mort sous le régime de Sékou Touré, effectue son retour à Conakry, le vendredi 17 mai 1991, après plus d'une trentaine d'années. Il est à ce moment-là où il foule à nouveau le sol de son pays, le secrétaire général du RPG, le Rassemblement du Peuple de Guinée, qui a remplacé le MND. Un retour en héros puisqu'ils sont des milliers à l'accueillir à l'aéroport de Conakry, malgré la rumeur qui laissait penser que les autorités empêcheraient ce retour. Il n'a sur lui à présenter à la police des frontières que ses seuls certificats de nationalité et des photocopies de son passeport, retenus à l'ambassade à Paris. Dès son retour définitif à Conakry, Alpha Condé entre tout de suite dans l'arène politique, surtout que le climat social est favorable à la revendication. Le pouvoir actuel, je cite, a hérité de la plupart des aspects négatifs du régime de Sékou Touré, sans en avoir les positifs. Naguère, la Guinée jouissait d'un certain prestige. Fin de citation.
En fait, aujourd'hui, les revendications ont quitté le domaine social pour devenir des revendications politiques. L'objectif aujourd'hui des enseignants, des travailleurs, des jeunes et des femmes, c'est en priorité le retour des militaires dans les casernes, l'installation de la démocratie et d'un gouvernement civil. Aujourd'hui, ce que les démocrates et les patriotes guinéens veulent, c'est d'abord le multipartisme intégral immédiatement, ensuite une conférence nationale qui dégagerait un consensus pour permettre d'instaurer une période transitoire calme, pacifique, et qui favoriserait donc l'instauration d'un gouvernement d'union nationale et le retour des militaires dans les casernes. Nous, RPG, nous demandons à l'ensemble de nos militants et à tous les démocrates guinéens d'éviter la provocation. Le peuple de Guinée a souffert pendant 32 ans et nous pensons qu'il ne faut pas lui imposer d'autres preuves. Nous refuserons toute provocation. Nous continuons notre lutte dans le calme et la paix. Donc nous lançons un appel à tous les démocrates et patriotes guinéens pour ne pas tomber dans le jeu du pouvoir. Le pouvoir de Conté n'est pas un pouvoir de Soussou, comme le pouvoir de Sékou n'est pas un pouvoir de Malinké. Ces deux pouvoirs sont des pouvoirs d'une minorité qui pille et qui exploite le pays. Les seuls qui poussent aujourd'hui à l'ethnocentrisme sont ceux qui ont peur d'un changement démocratique, soit parce qu'ils vont perdre leurs privilèges, soit parce que ça ne leur permettra pas d'agir en tant que dirigeants parce qu'ils sont discrédités.
Le ton est donc donné. Lansana Conté a désormais un adversaire politique déclaré sur place, au pays. Et la bataille politique s'annonce particulièrement animé comme nous allons le vivre la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. Mais en attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique Les émissions ou encore sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Marjorie Bertin, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite des Archives d'Afrique spéciale 60 ans d'indépendance de la Guinée. À très vite. La Fondation.